le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Anne-Laure Janson et voici vos manchettes. Le Comité paralympique canadien met à disposition des enseignants des activités scolaires en lien avec Rio 2016. Des employés du centre de réadaptation de l'Estrie sont touchés par des réductions d'heures de travail. Des parents d'une jeune fille trisomique dénoncent le manque de services en orthophonie. Des bénévoles en Nouvelle-Écosse aident des enfants handicapés à apprendre à faire du vélo. L'aéroport de Londres forme son personnel aux troubles de santé mentale. À seulement 17 jours des Jeux paralympiques de Rio, le Comité paralympique canadien présente une série d'activités scolaires pour susciter l'intérêt des enfants à l'égard de ces Jeux. Ces activités, conçues par le comité lui-même, vont présenter les Jeux paralympiques et les athlètes canadiens qui y participeront. Il y a trois séries de plans de cours spécifiquement conçus pour les niveaux 1, 3, 4, 6, 7 et 8, disponibles pour être téléchargés gratuitement en format PDF à paralympique.ca/plan-d'activité au pluriel. Catherine Gosselin du Comité paralympique canadien déclare: plusieurs professeurs planifient déjà leurs cours et ce qui est intéressant cette année, c'est que les Jeux paralympiques auront lieu durant le mois de septembre, mois de la rentrée. Chaque cours contiendra deux activités avec des photos et des liens vers des vidéos. J'encourage tous les éducateurs à consulter ce matériel pédagogique pour sensibiliser les plus jeunes aux enjeux du sport paralympique et du mouvement paralympique, dit-elle. Le Canada enverra environ 160 athlètes qui participeront à 19 sports du 7 au 18 septembre. L'ensemble de l'équipe paralympique canadienne sera annoncé officiellement le 29 août. Pour obtenir des renseignements sur Équipe Canada, visitez paralympique.ca/Rio 2016. L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux en Estrie dénonce les compressions qui se traduisent actuellement par des abolitions de postes et un surcroît de travail au centre des réadaptations de l'Estrie. Celles-ci limiteront significativement le service à la population. Certains employés qui travaillent à temps plein depuis plus de 6 ans ont appris que leur semaine de travail passera de 5 à 2 jours, d'autres perdront carrément leur emploi. Ces mesures touchent 5 employés environ, principalement des ergothérapeutes et des techniciens en réadaptation physique. Le responsable de la PTS en Estrie, Emmanuel Breton, déclare: leurs patients sont des blessés orthopédiques graves, c'est-à-dire des victimes d'accidents de la route ou des blessés relevant de la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Il s'agit d'une clientèle qui nécessite des soins aigus et avec une grande intensité. Les chefs de service ont toutefois demandé aux employés de soumettre leur jugement clinique au contexte budgétaire, en invitant chacun à revoir les priorités cliniques pour l'ensemble de ces dossiers. Ces exemples concrets illustrent combien les coupes sauvages et sans distinction imposées par le ministre Barrett ont des répercussions directes sur les services à la population, ajoute M. Breton. Emmanuel Breton dit que la multiplication des réformes majeures combinées aux compressions de 67 millions de dollars sur 2 ans dans les établissements estriens fragilise l'équilibre précaire qui règne au sein des équipes de travail. Selon Mario Morand, directeur des programmes du CIUS de l'Estrie, cette réduction n'a pourtant aucun lien avec les compressions budgétaires ni la directive de réduction des dépenses de 1% demandée aux gestionnaires. Elle fait suite à la diminution depuis quelques années du nombre d'accidentés de la route et donc à la diminution du financement de la Société de l'assurance automobile du Québec pour offrir des services à cette clientèle. Les services sont toujours ajustés aux besoins des clientèles financées par la SAC ou la CSST, déclare-t-il. Les parents d'un enfant trisomique dénoncent la lenteur et les difficultés pour obtenir un service d'orthophonie. Depuis leur passage à TVA Nouvelle en mars dernier, Alain Lepage et Lise Beaulieu se portent à la défense des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle. L'Agence de la santé et des services sociaux de l'époque avait accordé à leur enfant âgé de 7 ans 3 séances avec un orthophoniste. Leur service avait été rapidement interrompu car il était réservé en fait aux enfants de moins de 7 ans. Après 5 ans d'attente, ils ont décidé de porter plainte. Leurs efforts ont porté fruit. Madame Beaulieu déclare, à la suite de plaintes au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et auprès du protecteur du citoyen, on a finalement réussi à obtenir des services en orthophonie pour notre fille, mais les soins ont été de courte durée. L'offre de services ne permet pas d'offrir des soins de longue durée aux usagers, a déploré Madame Beaulieu. Actuellement, au Bas-Saint-Laurent, 70 personnes attendent pour obtenir un service d'orthophonie. Toute nouvelle référence en service spécialisé est d'abord analysé selon une cote urgente, élevée ou modérée. La majorité des enfants ont une cote élevée. Ils doivent être vus par un intervenant dans un délai de 90 jours. L'apprentissage du vélo peut être très difficile pour les enfants ayant un handicap intellectuel ou physique. Mais en Nouvelle-Écosse, un groupe les aide à relever ce défi. Heather McNamara, qui est atteinte d'autisme, a récemment fait du vélo pour la première fois grâce au programme I Can Bike de l'organisme Easter Seal Nouvelle-Écosse. Son père, Dale McNamara, l'a regardé faire avec étonnement. Il explique qu'il ne croyait pas ce qui serait possible après seulement 4 jours. « Avec moi, ça n'a jamais fonctionné », dit-il, parce qu'elle avait toujours peur et qu'elle était très anxieuse. Grâce au programme spécialisé I Can Bike, ce qui semblait impossible pour des jeunes comme elle devient possible. Il y a des bicyclettes avec des roues et les roues sont très larges. C'est comme un rouleau à pattes et graduellement, sans qu'ils sachent, on change les rouleaux pour qu'ils rapetissent, jusqu'au point où le dernier est plus ou moins plus mince, précise Emma Thompson de l'organisme Easter Seal. Ce succès réjouit les bénévoles du programme. Après avoir maîtrisé le vélo, ces enfants pourront peut-être passer au programme I Can Swim pour apprendre à nager ou I Can Dance pour apprendre à danser. L'aéroport international de Londres devient officiellement le premier à mettre en place un programme de formation de ses équipes pour aider les voyageurs ayant des troubles de santé mentale. Les trajets aériens peuvent représenter une expérience chargée en stress, même pour les grands voyageurs. Ajoutez à cela l'anxiété, la complexité des troubles cognitifs et les troubles de santé mentale, et l'avion peut devenir un enfer, explique l'Alzheimer Society britannique. Pour accueillir au mieux les personnes qui souffrent de ces troubles, les 76 000 membres du personnel aéroportuaire d'Heathrow et plus particulièrement le personnel en charge de la sécurité, recevront une formation spécifique. Les contrôles figurant parmi les moments les plus stressants de l'embarquement, le personnel sera bientôt capable d'identifier les voyageurs potentiellement atteints de ces troubles pour mieux les accompagner. De même, les employés des guichets, qui doivent régulièrement converser avec des passagers au handicap non visible, comme l'autisme, la cécité, la surdité ou des troubles de santé mentale, suivront aussi un programme approfondi. On notera par ailleurs que des salons seront réservés aux personnes ayant des troubles de santé mentale pour les aider à être plus au calme au cours de leur voyage. C'était votre bulletin du handicap en ce mercredi 24 août sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Chers organismes, envoyez-nous vos actualités au canalm@vuesetvoix.com. Des liens vers les nouvelles de notre bulletin sont toujours disponibles au canalm.vuesetvoix.com. Merci.